France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Morgane Danan, Martine Moni, Jean-Frédérix et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission de notre série consacrée à Edward Elgar, pionnier d'un grand renouveau de la musique anglaise à la belle époque. Hier, je vous avais proposé d'entendre la première marche Pomp and Circumstance dans sa version originale pour orchestre seul. Partition célébrissime de 1901 qui avait obtenu un succès immédiat et durable, le roi Édouard VII en personne suggérant le rajout de paroles sur cette mélodie, des paroles signées Arthur Christopher Benson dans Pays d'espoir et de gloire, Land of Hope and Glory. Ambiance de fête au Proms de Londres en 1995 dans ce Coronation Ode, hymne de l'Angleterre, hymne de la Grande-Bretagne, hymne du Royaume-Uni, que cette musique non officielle mais chère au cœur de bien des Britanniques. C'est l'ensemble Finfleur avec l'ensemble Il Novecento dirigé par Robert Grollo qui chantait en ce soir de 1995 pour les Proms de Londres. C'est Land of Hope and Glory dont voici une traduction du refrain « Terre d'espoir et de gloire, mère de la liberté, comment ferons-nous ton éloge, nous qui sommes nés de toi, large et toujours plus large, tes frontières seront fixées, puis ce Dieu qui t'a fait puissante te rende plus puissante encore ». Voilà des paroles impériales s'il en fut. Et c'était donc en 1901-1902 que cette partition avait été conçue, partition d'Edward Elgar qui célèbre le royaume d'ici-bas, mais Elgar a également chanter le royaume de l'au-delà dans nombre de ses partitions, lui dont j'évoquais l'éducation catholique, et qui avait mis en musique de nombreux textes sacrés. On avait entendu hier le rêve de Géronte, The Dream of Gerontius, ou encore les apôtres d'après le Nouveau Testament. Eh bien, le troisième grand oratorio chrétien de Elgar, c'est The Kingdom, dont voici le prélude interprété par l'orchestre Halley, dirigé par Mark Elder.
Thank you.
The Kingdom, le royaume, c'est le titre de cette partition d'Edward Elgar. Nous écoutions le prélude par l'orchestre Hallé de Manchester, dirigé par Mark Elder. Mais ce n'est pas à Manchester, c'est à Birmingham que cette partition a vu le jour en 1906 dans le cadre de ce festival triennal de Birmingham qui remonte au XVIIIe siècle et qui a dû s'arrêter juste avant la Première Guerre mondiale, faute de financement, mais qui a commandé de nombreuses partitions, je le disais hier, à des compositeurs comme Mendelssohn, Max Bruch, Dvorak ou encore Edward Elgar, qui avait présenté en 1903 Les Apôtres qu'on écoutait hier et en 1906 cette partition Le Royaume, The Kingdom, dont nous allons écouter un autre extrait ainsi commenté par Michel Fleury dans le guide de la musique sacrée chez Fayard. L'une des pages les plus fascinantes de ce royaume, c'est un chœur, un chant de la Vierge Marie, l'air de la Vierge Marie, The Sun Goes Down, au moment de l'arrestation des apôtres. Ce haut, écrit Michel Fleury, au niveau des plus belles inspirations de son auteur, il mêle, comme dans le prologue des apôtres, des éléments hébraïques à la texture d'ensemble. Cette séquence, avec son harmonisation originale, ses changements de tempo subtils et son orchestration élégante, est un des plus beaux titres de gloire de The Kingdom. Et bien justement, le voici, cet air enregistré en décembre 1968 par Adrian Boult. Il se trouve que Boult, lorsqu'il était tout jeune homme, venait de rencontrer Edward Elgar au moment de la création de ce Kingdom, qu'il connaissait donc très bien. Adrian Boult dirigeant l'orchestre philharmonique de Londres avec Yvonne Minton, contralto, dans le rôle de la récitante, et la Vierge Marie était interprétée par la soprano galloise Margaret Price.
Because they proclaimed in Jesus.
Voilà une des plus belles voix du XXe siècle, celle de Margaret Price, qui incarnait le rôle de la Vierge Marie dans cet oratorio d'Edward Elgar, The Kingdom, le Royaume, opus 51, enregistré ainsi en décembre 1968 par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Sir Adrian Boult, qui était un proche de Elgar, qu'il a connu dès son adolescence. Alors hier, nous avons entendu deux des Pomp and Circumstances de Edward Elgar. Nous avons commencé l'émission d'ailleurs avec Land of Hope and Glory. C'est une célèbre mise en poème de cette musique. On a essayé à d'autres reprises de mettre des paroles sur d'autres marches militaires d'Edward Elgar, mais elles n'auront jamais la popularité de ce Land of Hope and Glory. Exemple avec la quatrième marche des Pomp and Circumstances, qui est très célèbre dans sa version orchestrale. L'épouse de Elgar, Alice Elgar, qui était poétesse, écrivain, avait écrit The King's Way, un texte qui correspond justement au rythme de cette mélodie, mais finalement le succès n'était pas au rendez-vous. Pourtant, Alice Elgar était une collaboratrice évidemment très proche de son mari. Cette Alice qui venait d'une famille fortunée et pratiquant l'église anglicane, qui s'était opposée au mariage d'Alice avec ce modeste musicien venu d'un milieu qui plus est catholique. Mais le mariage se fera en 1889 et Alice Elgar deviendra Lady Elgar lorsque son mari sera devenu sœur, sera couronné par la reine. Et en 1920, à l'âge de 71 ans, Alice Elgar quitte ce bas monde pour rejoindre ce fameux royaume dont il est question dans cet oratorio. Alors voici ce Pomp and Circumstance numéro 4 avec l'Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Georg Scholti. Thank you. L'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Georg Scholti, ou Sir Georg Scholti si on préfère, dans cette quatrième marche militaire de Pomp and Circumstance, l'opus 39 de Edward Elgar.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Elgar, qui en cette année 1907 fête ses 50 ans, et revient sur sa jeunesse et plus précisément sur des partitions qu'il a écrites dans son enfance ou dans son adolescence, des partitions qu'il a retravaillées et regroupées dans deux suites orchestrales intitulées The Wand of Youth, donc la baguette de la jeunesse. C'est un extrait de la première suite de ce Wand of Youth que je vous propose d'entendre. Il s'agit de Fairy Pipers. Alors j'hésite sur la traduction. Fairy Pipers, dirait-on la fée cornemuse ou le joueur de cornemuse féerique? Si vous avez une réponse à cette question, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, voici un extrait de ce Wand of Youth de Edward Elgar par l'orchestre de l'Académie de St. Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner.
Thank you.
L'orchestre de l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, Saint Martin in the Fields, à Londres, dirigé par Neville Marriner, a interprété cet extrait de Wand of Youth, la baguette de la jeunesse d'Edward Elgar, qui revenait donc sur des mélodies composées pendant son enfance. C'était en 1907 qu'il avait rassemblé le premier cahier de ses mélodies, et l'année suivante, Elgar écrit ce qui va devenir l'une de ses mélodies les plus célèbres dans les pays de langue anglaise, The Pleading. C'est une mélodie qu'il a conçue sur un poème d'Arthur Solomon, ainsi commenté par le musicologue Connor Farrington. Pleading est l'une des mélodies les plus connues d'Elgar. Ce poème d'Arthur Solomon est élégiaque. En voici une traduction. Reviendras-tu des collines du pays des rêves? Rentreras-tu à la tombée du jour pour me parler encore, me conter les histoires dont je perds le souvenir, encourager mon espoir, apaiser ma peine? Elgar, qui fut d'emblée inspiré par cette poésie évoquant nostalgie et solitude, en fit une mise en musique superbe qu'il dédia à son amie Lady Maud Warrender. The Pleading, voilà le titre de cette partition, l'opus 48 d'Edward Elgar sur ce poème d'Arthur Solomon, chanté par le baryton Roderick Williams avec l'orchestre philharmonique de la BBC dirigé par Andrew Davis. À cette même époque, en 1907-1908, Edward Elgar écrit sa première symphonie, à un âge de 50 ans, pour se lancer dans ce genre phare de la musique dite classique. Première symphonie en la bémol majeur, opus 55. Alors si l'on a parlé souvent de la première symphonie de Brahms pouvant être la dixième de Beethoven, eh bien Arthur Nikisch, le grand chef d'orchestre, parlait de cette symphonie de Elgar comme la cinquième symphonie de Brahms. Brahms n'a écrit que quatre symphonies, eh bien cette symphonie d'Elgar se situerait dans le prolongement de ces quatre symphonies de Brahms. Première symphonie ici dirigée par le grand ami d'Edward Elgar et surtout grand interprète Adrian Boult à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC, et j'ai choisi de vous faire entendre le troisième mouvement Adagio sur France Musique. Adagio, troisième mouvement de la première symphonie en la bémol majeur, opus 55 d'Edward Elgar. C'était l'orchestre symphonique de la BBC, dirigé par Adrian Bolt dans cette partition de 1907. J'avais évoqué hier des vacances de la famille Elgar en Ligurie, dans la région de Gênes, à Alassio, une ville, petite ville italienne qui avait donné son surnom à un poème symphonique, In the South, dans le sud d'Elgar. Nous avons écouté hier en intégralité. Eh bien, la famille Elgar va retourner en vacances en Italie en 1909, mais cette fois-ci plus au sud, à Florence, et ce sera l'occasion pour Elgar de se baigner dans la poésie toscane, notamment celle de Guido Cavalcanti, prédécesseur de Dante, dont il va mettre en musique un poème qui a été traduit, adapté en tout cas en anglais, par Dante Gabriel Rossetti, célèbre poète pré-raphaélite, dont le prénom témoigne également de la fascination familiale pour la poésie toscane. Go, Song of Mine, voilà le titre de cette partition d'Edward Elgar, inspirée de Cavalcanti, avec ici le chœur de chambre de l'Université de Cambridge.
Oh,
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
En 1909, après ses vacances à Florence, lors desquelles il compose le chœur que nous écoutions tout à l'heure, Go Song of Mine, d'après Guido Cavalcanti, interprété par le chœur de chambre de l'Université de Cambridge, dirigé par Christopher Robinson, 1909, Edouard Elgar apprend la mort de son ami August Jäger, un éditeur d'origine allemande dont le nom signifie chasseur et qui lui a inspiré la plus célèbre de ses variations Enigma, la variation Nimrod, du surnom d'un chasseur biblique qu'on a écouté hier en début d'émission. collaboration. August Jäger meurt en 1909 à l'âge de 49 ans et Elgar écrit aussitôt cette élégie en sa mémoire, élégie opus 58, interprétée ici par l'English Northern Philharmonia, dirigée par David Lloyd Jones. Et puis cette année 1909, c'est l'année où Elgar se voit proposer un concerto pour violon par un festival de musique et puis par le violoniste autrichien Fritz Kreisler. Bien sûr, Elgar, qui vient d'écrire sa première symphonie, se souvient de tous les grands concertos du passé. Il ne tremble pas devant la page blanche pour écrire 45 minutes d'une musique dont nous allons écouter quelques extraits. Demain, nous écouterons la fin de ce concerto par l'un de ses premiers interprètes. En tout cas, le premier à l'avoir enregistré, c'est Yehudi Menuhin qui a enregistré ce concerto de 1910 sous la direction du compositeur. Mais c'est une autre violoniste que je tenais à vous faire entendre, c'est Ida Haendel, à qui j'avais consacré une semaine entière d'arabe. Arabesque, extraordinaire violoniste du XXe siècle, qui joue ici avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Adrian Boult, dans la première partie, premier mouvement de ce concerto pour violon, dans lequel Elgar dit lui-même avoir mis toute son âme. Et sur la partition, il y a une épigraphe extraite de l'histoire de Gil Blas de Santillane, le grand roman picaresque de Le Sage. Ici se trouve enfermée l'âme de, et point de suspension, on ne sait pas de qui est cette âme. On pense qu'il s'agit d'une amie d'Elgar qui s'appelait Alice, comme son épouse, Alice Stuart Wortley. Quoi qu'il en soit, voici cette musique sur France Musique. Allegro, premier mouvement du concerto d'Elgar par Ida Haendel. Sur France Musique, vous venez d'entendre le premier mouvement du concerto en si mineur, opus 61 d'Edward Elgar par la violoniste Ida Haendel, accompagné par l'orchestre philharmonique de Londres dirigé par Adrian Boult, partition de 1910 dont nous écouterons demain un extrait du final avec Yehudi Menuhin dans un enregistrement historique dirigé par le compositeur. Edward Elgar qui en cette année 1910 rend hommage à l'un des musiciens de l'orchestre symphonique de Londres, son principal bassoniste qui s'appelait Edwin James. Et il écrit une romance for bassoon and orchestra dont voici un extrait. Graham Sheen au basson avec l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Andrew Davis dans cette romance pour basson et orchestre opus 62 d'Edward Elgar.
À réécouter sur francemusique.fr.